Il est toujours là, il écrit toujours aussi bien. Patrick Bruel chante toujours aussi bien aussi. Pour la vie, on a récupéré Hamad, me semble-t-il. Bonsoir Hamad.
Bonsoir Monsieur Olivier.
Bonsoir.
Merci de me recevoir parmi vous.
Mais je vous en prie Hamad. D'où nous appelez-vous Hamad ?
Je vous appelle d'Avignon.
D'Avignon. Très bien. Et quel âge avez-vous ?
Je fais 63 piges.
63 piges, parfait. Qu'est-ce qui vous amène, Hamad ? Dites-moi.
En fait, je traverse une situation très très compliquée en ce moment.
Mm-hmm.
Et une situation qui ne devait pas avoir, qui n'avait pas sa raison d'être, en fait.
D'accord, vous allez m'expliquer ça.
C'est-à-dire que je suis né français, j'ai conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance du territoire dans lequel je suis né.
Oui.
J'ai un acte de naissance français.
Oui. Où êtes-vous né ?
Dans lequel mon statut est explicitement mentionné.
Oui.
Donc, pour toute personne, en fait, bien intentionnée, bien sûr, n'aurait pas de complications en se rendant compte de ma situation en réalité.
D'accord.
Parce que normalement, par rapport à la loi française, il y a deux sortes de statuts pour les Français,
oui.
Nés français. Il y a les Français qui sont nés français de statut civil de droit commun, ceux qui sont nés en France métropolitaine.
Oui.
Et il y a les Français qui sont nés dans les territoires, dans les départements, à l'étranger. Eux, ils ont le statut personnel.
Oui, d'accord.
Donc, dans les statuts personnels, justement, il y a deux autres catégories. C'est-à-dire, c'est divisé en deux catégories. Il y a ceux qui ont le statut personnel tout court, où à chaque indépendance, sont dans la contrainte de souscrire une déclaration récognitive de nationalité pour conserver la nationalité française. C'est-à-dire, il y a cette obligation. Il y a l'autre catégorie, elle, par contre, à l'indépendance de leur territoire de naissance, ils conservent de plein droit la nationalité française. C'est-à-dire que cela s'ajoute sur le statut particulier, sur le statut personnel, s'ajoute une particularité. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle le statut personnel particulier. Et ce qui est dans mon cas. Et ce qui est également explicitement mentionné dans mon acte de naissance. Malheureusement, par rapport à toute cette situation, je traverse une vie très, très compliquée. Il y a des institutions qui me reconnaissent immédiatement. Il y a d'autres qui exigent des situations qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à me retrouver devant vous pour essayer d'en parler, afin de voir si c'est possible. Est-ce que quelqu'un nous entende et qu'on se rende compte de cette réalité qui nous apporte une solution par rapport à l'existence.
D'accord.
Allô.
Oui, je vous écoute. C'est assez technique, hein, ce que vous me racontez.
Monsieur Olivier, c'est que tout cela, tout ce que je vous dis en ce moment,
oui.
Je ne le savais pas de l'étranger où j'étais.
Mm-hmm.
C'est uniquement une fois en France, après avoir eu deux avocats qui n'ont pas fait leur boulot comme il le fallait, je me suis retrouvé à entreprendre des recherches.
D'accord.
Dans le domaine juridique comme dans le domaine administratif. Je suis allé jusque dans la Constitution française du 14 octobre 1958 pour effectuer des recherches. C'est là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait deux catégories de Français, pas distinctement par rapport à l'égalité, c'est-à-dire distinctement par rapport à leur territoire de naissance, au lieu de naissance.
D'accord, mais vous, donc, vous êtes né où exactement, Hamad ?
À Madagascar.
À Madagascar, et à l'époque, donc, Madagascar est encore français ?
Était français, oui. Au moment
D'accord.
de ma naissance, elle était encore française.
Donc, ouais. Vous avez un acte de naissance français délivré par le service central d'état civil, c'est comme ça qu'on appelle. De Nantes. D'accord.
Ouais.
Aujourd'hui, vous affrontez donc une situation, finalement, on ne veut pas vous donner vos papiers, on ne veut pas vous reconnaître comme français.
Justement, c'est-à-dire que la loi a grandement évolué, en fait. Parce que depuis le 28 juillet 1960, il y a une loi qui a été établie qui fait que, au moment de la naissance d'un Français à l'étranger, soit il est Français au moment de l'indépendance, soit il ne l'est pas. et qu'il a l'obligation de souscrire une déclaration récognitive. Cette loi-là a fait de moi un Français. Donc il y a une loi.
D'accord, ça j'ai bien compris. Et à quel moment perdez-vous, ou en tout cas remettons en cause cette nationalité française ? Dans quelles circonstances ?
Elle aurait été mise en cause justement le 28 juillet 1960, au moment de l'indépendance de Madagascar, le 26 juin 1960.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à Avignon, vous habitez en France depuis un moment, je suppose ?
Oui, depuis 2014, en fait.
Depuis 2014. Et vous avez du mal à obtenir vos papiers français ? Ou,
effectivement, oui.
D'accord.
Malgré la présence de la reconnaissance, mais j'ai du mal vraiment à me faire valoir des papiers, oui.
Oui, et ça n'est absolutement pas normal.
C'est ce que je ne comprends pas absolument.
Et que vous dit-on alors ? Que vous dit-on ? L'administration vous dit quoi, en fait ?
J'étais à Marseille, en fait, et j'avais déposé ma demande de carte d'identité.
Oui.
Et là, il a fallu, au niveau de la mairie, que je prenne contact avec M. Alain Marceau, qui était député à la Cour des Français de l'étranger.
Oui.
Pour qu'elle intervienne d'abord pour l'admission de mon dossier.
D'accord.
Ensuite, je lui ai fait toutes les formalités qui allaient avec. Le dossier, une fois envoyé à la préfecture de Marseille, au service de la citoyenneté, là, il y a un blocage. Ils exigent un document complémentaire.
Quel document ?
C'est-à-dire ils n'étaient pas arrivés à avoir un document précis. Pour montrer qu'ils étaient objectifs par rapport à leur demande. Mais ils étaient dans ou un certificat, ou un décret, ou une déclaration. Donc ils étaient dans le ou continuel, quoi. Donc là, j'étais obligé de recontacter encore le député Alain Marceau, qui a écrit à la préfecture de Marseille, qui n'a donné aucune suite à sa requête, en fait.
Donc en fait, il a refusé. Il a refusé.
C'est le chef de service de la citoyenneté de la préfecture de Marseille qui a carrément refusé de donner suite à la requête du député Alain Marceau à l'époque.
D'accord. Qu'attendez-vous de moi, Ahmad, ce soir ?
Juste en parler. Parler avec vous. Enfin, que, d'abord, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, qu'ils sachent que nous sommes dans un état de droit.
Oui.
Sachez, M. Olivier, c'est que depuis que je suis arrivé en France, je n'ai que mon reconnaissance qui justifie de ma nationalité française. Heureusement qu'il y a des lois qui ont été mises en chantier tout dernièrement, en 2010, qui fait que la reconnaissance à lui tout seul suffit à défendre ma citoyenneté française. À lui tout seul. Mm-hmm. Parce qu'il y a une circulaire du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur qui dit que l'acte de naissance délivré par le service central d'État civil de Nantes suffit à justifier la nationalité française.
D'accord.
Et cette circulaire a été renforcée par un décret qui a été signé en mois de février 2010 également pour dire que pour corroborer en fait toutes les situations qui se retrouvent dans cette circulaire.
D'accord. Alors j'ai une question à vous poser, Ahmad. En fait,
oui.
Vous êtes arrivé pour vivre en France en 2014. Vous n'aviez jamais vécu en France avant ? Vous étiez resté à Madagascar ?
De Madagascar, je suis parti vers les Comores.
Oui.
Et des Comores, je suis venu en France en 2004, mais la seule pourquoi c'était dans des fonctions diplomatiques.
Oui.
Donc on a fait une semaine, donc je n'avais pas de soucis dans ce sens-là, à évoluer davantage par rapport à ma situation.
D'accord.
Et ensuite, dans le bénévolat, j'ai créé une association pour le renforcement des liens d'amitié entre les Comores et la France.
D'accord. Alors, j'ai une question à vous poser, en fait.
Oui.
À laquelle, à mon avis, vous allez pouvoir me répondre par rapport à ce que vous me racontez ce soir. Est-ce à dire que, finalement, tous les gens qui sont nés en 60 et avant 60 peuvent revendiquer la même chose que vous aujourd'hui ?
Ça dépend de la personne. Pardon, ça dépend du lieu et des conditions de naissance.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a tous les malgaches, pas tous les malgaches, qui étaient matriculés dans les consulats, eux avaient la possibilité de demander la nationalité française parce qu'ils étaient dans la même situation que moi par le fait d'être nés à Madagascar. À la seule différence qu'eux avaient des parents malgaches, donc ils étaient malgaches à 100%. Par contre, moi, j'étais malgache par ma naissance à Madagascar, deux parents français nés aux Comores. Donc c'est là la différence, justement. Dans mon cas, il y a un métissage de deux territoires, le territoire de Madagascar où je suis né et le territoire des Comores où sont nés mes parents.
Où sont nés vos parents. D'accord, ok.
Donc c'est ce qui m'a valu ce statut personnel particulier.
Oui, c'est un statut particulier, on est d'accord. Ok. Non mais écoutez, ce que vous évoquez ce soir, à partir du moment où vous naissez en 60 et que vous avez la nationalité française et que à l'époque on vous délivre un état civil français, je ne vois pas pourquoi on remet ça en cause aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'échappe.
C'est-à-dire, monsieur Olivier, c'est que c'est-à-dire la délicatesse de ma situation, c'est que ça dépend de la personne à qui j'ai affaire immédiatement. Lorsque je suis arrivé en France, d'abord pour des questions sanitaires, je me suis inscrit à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est une procédure ouverte pour les personnes en situation irrégulière.
Oui.
J'ai opté pour ce passage pour éviter justement les petites complications par-ci, par-là. Mais au moment du dépôt de mon dossier, j'ai glissé mon arrêt de naissance français dans mon dossier. De ce petit fait, M. Olivier, ça m'a valu un numéro de sécurité sociale définitif. Pourquoi ? Parce que le dossier est tombé entre des mains éclairées par rapport à la
situation. Éclairée et bienveillante.
Mais bienveillante.
Mmh.
Donc, ça m'a valu un numéro de sécurité sociale définitif.
Que vous avez aujourd'hui, donc, encore.
Que j'ai jusqu'aujourd'hui, oui.
Mmh.
Donc, c'est pour vous montrer que tout dépend de la personne à qui j'ai affaire.
Oui, oui, d'accord.
Là, par exemple, quand je suis arrivé à Avignon en 2016, je me suis inscrit comme allocataire du Vaucluse. Donc, la première personne que j'ai contactée a tout de suite pris en considération ma demande et là, immédiatement. Donc, j'ai eu gain de cause également. Jusqu'en décembre 2020, la chef de service RSA du département du Vaucluse, Mme Laure Mailleux, décide de suspendre le versement de RSA avec justificatif comme quand je suis né à l'étranger à Madagascar. Ça, là se limite ces arguments. Donc, je me suis demandé le pourquoi. J'ai essayé d'écrire, de clarifier la situation autant que possible. Mais malheureusement, il y a eu une obstination dans le positionnement de sorte à ce que cette situation-là a évolué jusqu'alors. Je vis sans aucune ressource.
D'accord.
Donc, j'ai contacté la députée du Vaucluse, Mme Souad Zitouni, qui a essayé à elle aussi de prendre contact avec une de ses collaboratrices pour qu'ils entreprennent un service d'intermédiaire pour débloquer cette situation. Malheureusement, sans suite.
Écoutez, allez-y, pardon.
Donc j'ai essayé, j'ai touché également le bureau du défenseur de droit qui apparemment, je ne suis pas arrivé à comprendre leur mode de fonctionnement. Ils ne sont pas arrivés à me donner une réponse exacte par rapport à ma demande, malgré toutes les explications que je leur ai apportées. Donc, au final, en fait, ce que je me suis rendu compte au niveau des ressources, c'est que il s'est établi carrément une sorte de blocage établi uniquement contre mon dossier. Je suis revenu sur Madame la députée du Vaucluse, Madame Zitouni, pour lui faire comprendre que mon dossier n'évoluait pas, que le temps perdurait, je n'avais pas de loyer, je n'avais pas de ressources, ainsi de suite. Et là, j'ai pris un contact avec sa collaboratrice pour lui faire comprendre que si le dossier devait transiter entre les mains de la chef de service RSA, ça n'allait pas aboutir. Il fallait contourner ce blocage et passer directement par la nouvelle présidente élue.
Et ça, c'est Ahmad, c'est beaucoup de détails, si vous voulez, de noms. Et celles et ceux qui écoutent, je comprends que vous avez fait toutes les démarches possibles. Ce qui est important ce soir, c'est que vous ayez témoigné pour faire part de votre ce qui vous arrive. Et au final, ce que je retiens de votre témoignage, c'est que non seulement vous aviez un acte de naissance français et que lorsque vous avez présenté votre dossier, on vous a attribué un numéro de sécurité sociale. Donc ça veut dire que la personne qui a reçu ce dossier a vu qu'il y avait un acte de naissance français et donc vous avez obtenu votre numéro de sécurité sociale. Il est certain que Voilà, je ne vois pas pourquoi on vous refuse aujourd'hui vos papiers alors que vous êtes né français. Et ça, c'est très étonnant. Après, il est certain que je pense que vous avez affaire à des gens qui ont certains soupçons de malhonnêteté ou de je ne sais pas quoi, mais au final, vous avez pris un avocat pour faire valoir vos droits, parce que avec l'acte de naissance que vous avez, le numéro de sécurité sociale, il y a quand même de quoi établir que vous êtes français. Moi, ça me semble, voilà, c'est, en vous écoutant, ça me semble évident. Mais il faudrait peut-être que vous fassiez saisir ça par un avocat spécialisé justement dans tout ça, non ?
J'ai évolué davantage, monsieur Olivier. J'ai évolué davantage. Je suis carrément allé au tribunal, au service de la nationalité à Paris.
Oui.
Pour demander un certificat de nationalité, en joignant mon acte de naissance, bien sûr. Et ça a été débouté. J'ai été débouté de ma demande. Et vous savez comment ?
Non.
On m'a attribué un autre de lieu de naissance autre que celui mentionné dans mon acte de naissance. Il y a un statut autre que celui qui est mentionné dans mon acte de naissance.
D'accord. On vous a dit quoi ? Donc ça se traduit comment sur le papier ? On vous a attribué.
C'est-à-dire que normalement, je m'attendais à ce qu'on dise que je suis français conformément à ma naissance à Madagascar.
Oui.
Là, on me dit que je ne suis pas français conformément à ma naissance aux Comores.
Donc vous êtes Comorien ?
En fait, je suis Comorien de parentalement. Quoi.
Oui, non, mais je vous parle du papier, moi. Je vous parle du papier.
En fait, vu que mes parents sont nés aux Comores, donc j'ai la double nationalité, en fait. J'ai le double nationalité.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère, Ahmad, que le fait que vous en ayez parlé ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et que j'espère que des oreilles avisées auront pris connaissance de votre situation et j'espère que tout ça va se dénouer pour vous. C'est vrai que c'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué quand on fait les démarches. Je suppose qu'on vous oppose tout un tas de choses compliquées. Après, vous voyez, moi, je ne suis pas du tout juriste et pas vraiment dans l'âme non plus, mais il est certain que quand on a attribué quelque chose, on ne le reprend pas. Voilà ce que je retiens de votre histoire. À partir du moment où on vous a attribué la nationalité française à votre naissance, c'est quelque chose qui est acquis. Normalement, voilà, on ne l'enlève pas. C'est ce qui me paraît assez et surprenant et limite scandaleux dans votre histoire. Voilà ce que moi, je vous en dis, comment je perçois les choses. Maintenant, j'espère que ça va avancer pour vous, hein, Ahmad.
Je l'espère bien. Là, je suis à la Cour de cassation, là, en ce moment, justement.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis passé par le service de nationalité qui m'a débouté. Ensuite, je suis passé au TGI de Marseille. Eux, par exemple, ils ont mis les choses à l'ordre tout en me demandant d'apporter les preuves de ma nationalité française en dehors de l'acte de naissance. C'est-à-dire des preuves juridiques, dans une argumentation, en quelque sorte. Donc là, mes avocats, j'étais représenté par un avocat dont je n'avais aucun œil sur ses écrits. Ça a été débouté également et je suis passé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Là également, mon avocat n'a pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai été encore débouté, tout en demandant ce que j'apporte les preuves. Alors que les preuves sont explicitement claires, mais malheureusement, ça n'a pas été apporté. Donc, je me retrouve maintenant à la Cour de cassation dans l'espoir que à ce niveau, les choses vont être beaucoup plus claires parce que là, au moins, on m'a demandé d'apporter mes propres arguments.
Oui, par rapport à ma situation. En cassation, vous savez qu'on ne juge que le droit. Hein,
effectivement.
Que le droit. Et ça serait bien quand même que vous preniez un avocat parce que les avocats sont spécialisés dans la cassation. Hein. On est obligé d'être accompagné. On n'est pas obligé d'avoir un avocat spécialisé en cours de cassation, mais lorsqu'on prend un avocat, c'est un avocat spécialisé en cours de cassation. Écoutez, ne manquez pas de nous signaler comment ça s'est passé en cassation et puis je vous souhaite bon courage, mon cher Ahmad.
Merci beaucoup, monsieur Olivier, pour l'accueil.
Je vous en prie, et passez une bonne soirée et courage à vous.
Ah ouais, c'est merci beaucoup.